est-ce que vous avez envie de toucher Jésus ou pas? Je ne peux pas faire un miracle dans votre vie. Je vous dis clairement, je ne peux pas faire un miracle dans votre vie. Mais je connais quelqu'un qui peut en faire. Après, vous avez tous des histoires différentes. Je pense à cette Léa qui vient du Cameroun. Elle venait d'une famille assez aisée. Et lorsqu'elle arrivait en France, c'est parce qu'elle avait besoin d'un traitement. Et elle vivait avec l'aide en fait, financière de ses parents qui avaient une bonne situation au Cameroun. Donc elle avait les moyens d'avoir accès à ce traitement. C'est pour ça qu'elle est venue en France, qu'elle a été soignée pendant des années à l'hôpital. Et vous voyez, elle avait une foi, elle était d'une tradition croyante, elle priait de temps en temps. Mais pour elle, comme peut-être pour quelqu'un ce matin, Dieu, même si on l'appelle notre Père, c'est plutôt un vieil oncle éloigné. Quelqu'un pour qui on n'est pas prioritaire. Et dans sa situation, elle vivait avec son mal chronique, même si finalement elle n'était pas si mal que ça, puisque elle, financièrement par rapport aux autres, ça allait. Mais elle se disait, en fait, je ne fais pas partie des priorités de Dieu. Il y a des personnes qui sont plus mal que moi sur la terre, et elle n'osait pas prier. Elle n'osait pas toucher Dieu. Elle osait faire une petite prière comme ça, mais elle ne voulait pas comme importuner Dieu avec ses problèmes. Peut-être il y a un jeune homme, une jeune fille ce matin, c'est pareil, tu dis, bon, moi dans ma vie sentimentale, c'est juste un moment où je suis difficile, mais par rapport au vrai problème, c'est tellement ridicule que j'ose même pas importuner Dieu avec ça. Et le texte de ce matin, on va le lire dans l'évangile de Marc au chapitre 5. Je peux te dire que si tu le veux, Dieu peut faire pour toi comme une transfusion de puissance dans ta vie. Dieu est extrêmement puissant et je ne sais pas quel est ton prénom, je ne sais pas quelle est ta situation. D'ailleurs, l'histoire que l'on va lire ce matin, c'est une inconnue. La Bible ne mentionne pas le prénom de cette personne, mais cette personne, ça peut être toi et ça peut être moi. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le livre saint n'a pas pris le soin de mettre qui était son nom, afin que ça puisse être toi en cette matinée. On ouvre ensemble dans l'évangile de Marc, on prend le verset qui va s'afficher, le verset 30 qui s'affiche sur les écrans. Si vous êtes venu juste par religion ce matin, vous pouvez être aussi bien dans une cathédrale, vous pouvez être très bien dans une mosquée, vous serez très bien dans une synagogue, vous serez très bien peut-être dans une église protestante. Maintenant, je voudrais parler à ceux qui sont venus parce qu'ils veulent rencontrer Jésus. Pour vous, il peut se passer quelque chose qui peut changer votre vie. Et on lit aussitôt. Réveille ton voisin là, aussitôt. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda, « Qui a touché mes vêtements ?» Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda, « Qui a touché mes vêtements ?» La force, elle est en Dieu. La force, elle est en Christ. Je crois que tu connais Dieu d'une certaine façon, tu connais Dieu d'une façon intellectuelle, mais est-ce que tu connais Dieu qui peut agir d'une façon concrète dans ta vie? Et c'est l'histoire de cette femme que l'on va lire aujourd'hui. Là, on a juste un extrait et on va se replonger, on va lire à partir du verset 21. Alors, on prend ensemble notre Bible, verset 21. Il est dit, « Jésus regagna en barque l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue nommé Jaïrus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds, le supplia instamment, il dit, « Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains. En gros, viens prier pour elle, pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, mais suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait, voilà notre anonyme, dans la foule se trouvait une femme, atteinte d'hémorragie, perte de sang, depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant « Si j'arrive !» Est-ce que tu es prêt à toucher les vêtements de Jésus ce matin? Si j'arrive à toucher ces vêtements, je serai guéri. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Je voudrais vous dire que vous avez 1000 raisons et 1000 bonnes excuses pour ne pas vous approcher de Dieu ce matin. Je vais vous dire pourquoi les gens ne s'approchent pas de Jésus. Pourquoi, alors qu'on vient dans une église et qu'on vient quand même parce qu'on a une croyance en Dieu, pourquoi on peut venir et ne pas s'approcher de Jésus? Parce qu'on se dit, Jésus est trop occupé. Jésus est trop occupé. Et vous savez quoi? Vous avez raison, Dieu est trop occupé. Certains, vous avez vu le film Bruce le Tout-Puissant? Moi, j'ai trouvé ça étonnant, ce film. Et même si c'est un Hollywood rigolo, eh ben, y a une pensée qui est vraiment intelligente dedans. C'est que si on donnait le moyen à une personne humaine d'essayer de répondre à toutes les prières en même temps, c'est juste impossible. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, si vous vous rappelez cette scène où tout d'un coup, il y a des emails de prières qui arrivent du monde entier. Et Bruce, qui tout d'un coup a la possibilité d'essayer de répondre à toutes les prières, il se rend compte que c'est juste terrible parce qu'il y en a un, entre deux voisins, ils vont prier deux prières qui sont incompatibles l'une avec l'autre. Et puis il y en a qui ont vraiment des sujets de prière, puis il y a d'autres, c'est le truc inutile au possible. Et Dieu dans son ciel est très occupé. Et des fois, je me dis, mais Seigneur, en quoi mes problèmes peuvent te toucher? Il y a des situations largement plus difficiles sur la terre. Alors tu peux dire, Dieu est trop occupé. Dieu est trop occupé. Tu te le dis à chaque fois que tu viens dans une église, Dieu est trop occupé, je ne vais pas le déranger. Et c'est exactement ce qui se passe avec cette femme au début du récit. Parce qu'il y a quelqu'un qui a la priorité sur elle dans sa tête. C'est Jaïrus. Pourquoi? Parce que Jaïrus est un papa. Ce n'est pas seulement un papa, c'est un chef de la synagogue. Et un chef de la synagogue, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, depuis des années, prie Dieu. La chef de la synagogue, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a consacré sa vie à Dieu. Et en plus, c'est un chef. Et c'est un homme, parce qu'on est dans une société... Déjà, c'est encore un peu machiste aujourd'hui, mais alors à l'époque, ça l'était vraiment. Donc, il y a un homme qui a attendu Jésus sur le rivage avant elle et qui a la priorité. En gros, vous avez déjà fait tous la queue quelque part, hein. Vous imaginez à Carrefour ou à La Poste, enfin quelque part. Des fois, imaginez qu'il y a quelqu'un beaucoup plus important que vous et le guichet s'ouvre pour lui. Et il est prioritaire. Elle est prioritaire. Et Jaïrus est prioritaire. Il est prioritaire parce que c'est un chef de la synagogue. Il est prioritaire parce que c'est un homme. Il est prioritaire parce qu'il s'est prosterné devant Jésus en premier. Et enfin, et peut-être la meilleure raison pour laquelle il est prioritaire, il a une petite gamine qui est en train de mourir. Il a une petite gamine de 12 ans qui est en train de mourir. C'est normal. Dieu, c'est une situation plus importante que la mienne. C'est terrible parce que 12 ans, c'est exactement le même nombre d'années. Le même nombre d'années. Pour cette femme, ça fait 12 ans qu'elle souffre d'une perte de sang. Alors, je vous ai dit que Dieu est trop occupé. Ben, moi, je voudrais vous dire de la part de Dieu, vous êtes une priorité pour Dieu. Vous êtes une priorité pour Dieu. Mais dans votre tête, vous faites comme si Dieu était trop occupé. Et pourtant, Jésus est prêt à s'arrêter. Et Jésus va s'arrêter lorsque cette femme va simplement faire l'effort de le toucher. Parce que cette femme, peu importe sa situation, est une priorité. Tu as 70 ans, tu as simplement des rhumatismes qui te font mal. Tu dis, il y a tellement de trucs plus graves que ça. Je peux te dire, Dieu est ton père et tu es une priorité. Et Dieu a la capacité que toi, tu n'as pas de gérer plusieurs situations en même temps et tu es une priorité. Tu n'as aucune excuse, tu es un jeune homme, tu as 15 ans, tu es là dans la salle, tu dis mes petits problèmes, c'est rien du tout. Si tu cries à Dieu, tu veux toucher Dieu, Dieu est prêt à s'arrêter, tu es une priorité pour lui. Alors après, vous allez me dire, oui, mais en plus, c'est un peu la honte, ma situation. Pour certains, vous n'avez pas envie de parler en public de ce qui vous gêne. Eh bien, mettez-vous à la place de cette femme. Cette femme, elle a une perte de sang. Déjà, aujourd'hui, c'est un peu tabou quand même. Je ne pense pas que vous avez envie de parler à un inconnu si vous avez un problème au niveau de vos règles, que vous êtes une jeune femme, même une femme d'un certain âge. Enfin, il y a quelque chose de très intime et c'est un peu une maladie honteuse. Dans le Lévitique, vous savez que le Lévitique, c'est la loi que Dieu avait donnée à Moïse quand les Israélites étaient dans le désert. Et dans le Lévitique, il y a un texte qui parle de ça justement. Et qui est dans Lévitique 15, 25, ne cherchez pas, je vais vous le trouver, Lévitique 15 au verset 25. Dieu un petit peu fait la liste, parce que comme dans un désert, c'est super dangereux. L'hygiène, vous imaginez, l'hygiène dans le désert, c'est compliqué. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de moyen. Donc Dieu met des règles très strictes à propos de qu'est-ce qui est impur ou pas. Et les hommes, il y a des situations dans lesquelles les hommes sont impurs. Par exemple, si vous touchez un cadavre ou des choses comme ça, vous devez être mis de côté du camp. Et du coup, vous n'avez pas le droit de rentrer dans la présence de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rentrer dans la tente de la rencontre avec Dieu. Vous êtes privé de la rencontre avec Dieu. Et c'est le cas des femmes qui ont des pertes de sang à ce moment-là, puisqu'il est dit, si une femme a des pertes de sang pendant plusieurs jours en dehors de la période de ses règles et au-delà du temps normal de son indisposition, elle sera impure tout le temps que durent ses pertes, comme au temps de ses règles. Tout lit sur lequel elle se couchera pendant le temps que durent ses pertes et tout meuble sur lequel elle s'assiera seront impurs, comme dans le cas de son indisposition. Quiconque les touchera sera impur. La personne devra laver ses vêtements et se lavera à l'eau et sera impure jusqu'au soir. C'est une maladie terrible pour une femme au premier siècle d'avoir ce problème. C'est pas seulement quelque chose de physique, c'est quelque chose qui vous prive de votre vie sociale. Et c'est quelque chose qui vous prive de votre vie spirituelle. Pourquoi ça prive de votre vie sociale? Parce que quel est l'homme qui a envie de vivre avec vous? Quel est l'ami qui, s'il vient chez vous, rien que pour prendre un café? Du coup, je ne sais pas si vous avez compris, mais dans la loi juive, ça veut dire que du coup, cette personne-là n'a plus le droit après, puisqu'elle s'est assise sur un de vos meubles, n'a plus le droit d'aller au temple et de rencontrer Dieu après. Donc en fait, c'est comme si vous contaminiez les autres. Et je crois qu'il y a des personnes dans cette salle qui, alors que vous venez à l'église et que vous aimez Dieu, dans votre tête, vous vous sentez sale, vous vous sentez souillé. Et c'est quelque chose qui peut durer depuis longtemps. Vous dites, je ne suis pas à la hauteur avec Dieu. Il y a un truc, j'ai des problèmes. Je ne sais pas si c'est peut-être pas forcément quelque chose de physique. C'est peut-être quelque chose que vous avez fait ou quelque chose qui vous est arrivé, mais vous vous sentez sale. Vous dites, je suis indigne de la présence de Dieu. Et vous savez quoi? Vous avez raison, théoriquement. Si vous étiez dans l'Ancien Testament et si vous étiez dans une religion, c'est vrai. Les religions vont vous dire que vous n'avez pas le droit d'avoir accès à la présence de Dieu parce que vous ne rentrez pas dans le cadre. Et cette femme ne rentre pas dans le cadre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus dit, rien à faire du cadre. Rien à faire du cadre. Je suis prêt à accepter d'être touché. Et ce n'est pas elle qui va rendre impure Jésus. C'est Jésus qui va la rendre pure. Et il y a une inversion de la puissance. Toi, tu crois que tout ce que tu touches est maudit. Tu t'engages avec quelqu'un, il lui arrive plein de galères. Tu arrives dans un appartement, c'est la misère. Tu dis, mais c'est pas possible, je suis maudit. Attends, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. C'est pas un prédicateur qui vous le dit, c'est écrit dans le livre saint. Lorsque tu viens à Jésus, il inverse la puissance. Il inverse l'impuissance. Cette femme a une maladie honteuse, socialement et spirituellement, elle doit se dire, mais si j'ai ça tous les jours, ça veut dire que j'ai jamais le droit d'aller au temple. J'ai jamais le droit d'aller au temple. T'as bien fait de venir à l'église. Dis à ton voisin, t'as bien fait de venir à l'église ce matin. Et il n'y avait rien qui doit t'empêcher de venir à l'église. Rien, rien, rien du tout. Elle a bien fait d'aller voir Jésus ce jour-là. Elle a bien fait de dire, allez, tant pis, je pose de côté, je mets tout ce qui peut me bloquer derrière et je dis, je vais aller toucher Jésus. Vous savez ce que ça veut dire d'avoir des pertes de sang pour une femme? J'ai regardé, hein, je ne suis pas prof de bio, je ne suis pas médecin, je vais reconnaître mes limites et je suis un homme, ça fait beaucoup d'handicap pour comprendre ce phénomène. Mais j'ai quand même un peu réfléchi, et vous allez sur Internet, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Après une situation de perte chronique comme ça, soit vous avez ça peut être lié à une maladie du col de l'utérus, ça peut être lié à des polypes, peut-être il y a des fibromes, il peut y avoir des situations d'endométriose. Il y a plein de situations, vous allez sur Doctissimo, ils vont vous expliquer plein de trucs pour expliquer ça. Mais surtout, vous allez voir qu'il y a des conséquences à ça. Il est dit, du coup... vous êtes anémié, vous manquez de fer. Et les symptômes, c'est teint pâle, mains et pieds froids, fatigue, baisse de tonus, des palpitations, des essoufflements lors d'un effort physique, des vertiges et des maux de tête. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette femme n'a aucune chance de toucher Jésus. Parce que, un, Jésus est trop occupé. Parce que, deux, elle n'est pas une priorité. Parce que, trois, elle a une maladie honteuse. Et parce que, quatre, elle n'a pas la force. Et vous savez, si on s'arrête là, on dit c'est triste vie, on referme le livre, et puis on dit, ben Dieu, ça ne sert à rien. Sauf que, je raffole la Bible. Parce que ce n'est pas seulement un livre d'espoir, ce n'est pas fait seulement pour les riches, pour les pauvres, pour les bien portants, pour les malades, la Bible est pour tout le monde. Et à ce moment-là, cette femme dit, je vais changer l'histoire, je vais changer la fin de l'histoire. Et cette femme, et c'est le deuxième point que je vois avec vous, va choisir de tout risquer pour s'approcher de Jésus. Au verset 27, il est dit « Elle avait entendu parler de Jésus. » C'est un bon début. Vous avez déjà entendu parler de Jésus ? Je ne sais pas si vous êtes d'un arrière-plan catholique, d'un arrière-plan protestant. Vous êtes peut-être né dans une famille évangélique depuis que vous êtes petit, école du dimanche et tout, gavé de Jésus. Vous savez qu'on peut avoir entendu parler de Jésus et n'avoir jamais touché Jésus. Ça veut dire, pasteur, toucher Jésus, t'as déjà touché à Jésus, c'est pas un fantôme. J'ai dit, tu peux pas comprendre si tu l'as jamais fait. Tu peux pas comprendre. Parce que si Jésus, c'est simplement avoir entendu, c'est sympa, t'as une religion. Si tu as touché Jésus, vous voyez, on n'est plus dans la religion, on est dans la relation avec quelqu'un. Et cette femme veut dire, je veux toucher Jésus. J'ai entendu parler, mais je vais m'approcher. Regardez le verset 27, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant, si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. Oh là là, la galère, ça doit être dans la tête. Même quand vous êtes silencieux, votre tête, elle parle. Les hommes aussi. Oui, oui, je sais, mesdames, vous croyez que vous, mais ça arrive aux hommes de penser aussi quand même. Et il y a juste plein de choses qui se passent. Ouais, mais vous touchez Jésus, mais comment ? Comment le faire ? Comment l'approcher ? Il y a déjà plein de monde là, il y a déjà Jaïrus, il est occupé, il y a tout le monde autour, il y a une foule. En plus, il y a des hommes, il y a des cris, il y a des jeunes, c'est impossible, il y a de la poussière, j'ai aucune chance, comment je vais le faire ? Et puis quand ? Quand est-ce que c'est le bon moment ? Alors regardez, quand ? Est-ce que c'est le bon moment pour toucher Jésus ? Théoriquement, non ! Théoriquement, c'est pas le bon moment pour toucher Jésus. Je pense qu'il y a eu des moments plus favorables à ce moment-là. Tu es là ce matin dans ce lieu et tu dis, je suis pas venu, j'étais pas particulièrement disposé à rencontrer Dieu aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un moment dans ta vie où tu as été plus disposé que ce matin où tu te sentais plus proche de Dieu. Écoute, Dieu en a rien à faire de quand. Il est tout le temps prêt. Arrête de te poser la question quand est-ce que c'est le bon moment. Si tu attends le bon moment, tu ne prendras jamais la décision. Il n'y aura jamais un moment assez bon pour toi pour t'ouvrir et ouvrir ton cœur à Dieu. Tu pourras toujours dire, mais c'est pas encore bien. Cette femme, elle avait entendu. Or Jésus, si vous connaissez un peu votre Bible, des fois il se posait pendant des heures pour enseigner sur une montagne. Donc c'est quand même plus facile de profiter d'une pause casse-croûte à un moment pour venir seul à seul avec Jésus. Excuse-moi, je veux te parler d'un problème que j'ai. Voilà, j'ai un problème d'endométriose ou j'ai un problème de ceci. Est-ce que tu peux prier pour moi, Jésus ? Est-ce que tu peux m'imposer les mains et me faire l'onction d'huile ? Non, elle a raté ce moment-là. Elle a raté. Et au moment où cette situation a lieu, c'est un mauvais moment humainement parlant. Parce que Jésus est super occupé, il est entouré de personnes. Mais elle dit, je suis épuisée, je suis anémiée, j'ai plus de tonus, je suis cuite. Je suis vidé de mon sang au sens propre et figuré. Mais je veux prendre le peu d'énergie qui reste. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas à qui je parle, mais si tu es prêt à prendre le peu d'énergie qui reste et ouvrir ton cœur à Jésus, ça suffit. Elle va prendre le peu d'énergie. Alors regardez le comment. Cette femme, elle est timide. Elle est mal dans sa peau. Elle est normale, franchement. Combien de fois elle a dû se faire refouler quand elle a voulu rentrer dans un centre commercial de l'époque ? Combien de fois on lui dit « tu dégages, c'est quoi ça là ? Ah, ah !» Donc elle n'a pas envie d'être repérée, vous voyez ? Et du coup, elle dit « je vais filouter pour toucher Jésus ». Est-ce que tu crois que tu peux toucher Jésus ? Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir alors que ce n'est pas un jour où tu es une super chrétienne ? Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir alors que tu es un gars et que tu te dis « mais franchement, j'ai pas été très fidèle à Dieu cette semaine. » Alors, c'est pas trop le moment et c'est pas trop la bonne façon de le faire. Dans certaines églises, ils vont vous faire plein de trucs pour essayer de rentrer en contact avec Jésus. Il y a des prédicateurs qui disent « ah, si je souffre, tu dis « ah, peut-être que c'est ça. » Il y en a qui vous font boire des trucs. J'ai entendu de tout. Ils vont inventer. Vous savez, il n'y a pas qu'en Afrique, il y a des gris-gris. Hein. Nous, les évangéliques, il y a plein de gris-gris dans notre tête aussi. On se dit, ah, quand il y a une prière du genre, Alléluia, je ressens la présence de Dieu. Ah, peut-être que Dieu est plus là et que c'est plus comme ça. Laissez tomber. Dans ta chambre toute seule, un dimanche matin, n'importe quand, le comment, Dieu est prêt à tout. Il n'y a pas de méthode. Dis oui, mais Jairus, il a fait ça plus classe. Jairus, il est venu, il s'est présenté déjà en premier, il est venu à l'heure. Peut-être que toi, tu arrives en retard ce matin, et déjà rien que ça, ça te fait culpabiliser. Et apparemment, il y en a qui rigolent, je visais personne. Et donc, Jairus, il arrive, lui, il était à la bonne heure, il était avant, il avait la priorité, il s'est prosterné, il s'était préparé. Il a tout bon. Mais c'est elle la priorité de Dieu. Mais c'est toi la priorité de Dieu. Ouais, mais moi, je suis arrivé trop tard. Dieu, il est pour toi, il te dit, tu es ma priorité. Ma fille, tu es ma priorité. Mon fils, tu es ma priorité. Je sais que tu as un petit problème par rapport aux autres, mais tu es ma priorité. Le comment, elle va gratter par l'arrière comme ça, elle se faufile. Je pense qu'elle n'a pas beaucoup d'énergie non plus. Est-ce qu'elle aurait pu? Peut-être, je ne sais pas. Mais je vois une chose, c'est que Jésus, comme tous les rabbis, comme tous les rabbins de l'époque, hein, c'est ce qu'il est en fait, Jésus, il est maître. Il a un vêtement qui est avec des franges, c'est-à-dire que c'est comme une robe découpée par petits bouts, avec des plis, etc. Parce que les Juifs font ça, c'était pour respecter les différents commandements de Dieu. Et ils mettaient les différents commandements de Dieu, ils les écrivaient et ils les mettaient sur les bouts de tissu, en fait, les différentes franges. Et du coup, certains d'entre vous sont mariés, ont une longue robe blanche, etc. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Quand vous avez une robe très très grande, etc., vous contrôlez moins. Je sais pas, le jour de votre mariage, il y a un petit garçon qui a écrabouillé votre robe de mariée. Du moment qu'il l'a pas trop abîmée, vous l'avez même pas ressenti. Il y a que sur la vidéo, vous allez comprendre qu'en fait, il y avait ce petit imbécile, il n'arrêtait pas de marcher sur votre voile. Mais Jésus, il est prêt, même si tu t'y prends mal, que tu touches qu'un pauvre bout de son manteau. Une force est prête à agir en toi. Seigneur, ça veut dire que même si je me prends mal, même si ma prière est nulle, tu peux y répondre oui. Même si je ne fais pas des super phrases avec des amen, des alléluia, des gloires à Dieu, et que si je ne parle pas à ma voisine, je suis vraiment spirituellement raplapla. Oui, Dieu peut te guérir. Oui, Dieu peut te toucher. Oui, Dieu peut répondre à ta situation, ton besoin financier. Dieu peut répondre à ton besoin. Je ne dis pas que Dieu va faire tout ce que tu lui demandes parce que si tu veux gagner au loto, il va peut-être mettre des limites. Mais je sais une chose, que si c'est au lieu du loto, que c'est lui que tu veux voir, alors tu verras Jésus. Maintenant, c'est à toi de savoir pourquoi tu viens voir Jésus. Cette femme, ce n'est pas le bon moment. Elle n'a pas la bonne méthode. Et pourtant, Jésus lui dit, quoi ? Qu'est-ce que Jésus lui a dit ? Une force m'a quitté. Qui a touché mon vêtement ? Christine, est-ce que tu peux venir ? Tu peux venir devant ? On est en live ce matin, hein, je fais les choses un peu différemment. Ce matin, on a entendu un témoignage au premier culte, et puis je voudrais que on puisse entendre des témoignages pour que vous réalisiez que Dieu est infiniment plus proche que ce que vous pensez. Tu peux nous dire en quelques mots ? Tu choisis tes mots, hein. C'est son filet.
Bonjour. J'étais au premier culte ce matin. Et la parole qui a été prêchée, ça m'a beaucoup touchée. C'est la même situation de la femme qui avait des pertes de sang pendant 12 ans que j'ai vécu moi. Et j'ai vécu ça depuis 2008. Ici en France même, de 2008 jusqu'en 2011, j'avais des pertes de sang vraiment qui n'arrêtaient pas, qui ne pouvaient pas s'arrêter, quoi. Bon, j'étais partie voir un gynéco dans le centre commercial, peut-être les gens le connaissent, Philippe Ouzan. J'arrive là-bas, il me dit, bon, mais on doit opérer, on doit enlever tout, parce que ça... J'ai dit à ce médecin, on ne peut pas opérer, je dois d'abord suivre un traitement. Il m'a donné un traitement de 2008 jusqu'en 2011. C'est les surgestones que je prenais et puis les stuffs pour les calmer le sang de temps en temps parce que j'étais de temps en temps fatiguée. J'avais plus de fer en moi. J'étais beaucoup fatiguée. Je pouvais tomber. Je tombais souvent dans la rue. Et j'ai dit non, mais trop, c'est trop pour moi. Ou je connais le Seigneur ou je ne connais pas le Seigneur. En 2011, fin 2011, le 31 décembre, en ce temps-là, je priais à ICC. Chez le pasteur Cassanon, J'ai dit, je ne vais pas au réveil de prière. Je dois au moins discuter avec le Seigneur parce que je ne comprends pas. Tout ce que je prends, ça ne me rapporte à rien. Je préfère rester dans la maison et au moins parler avec mon Dieu. Le 31 décembre, de minuit, quand le réveil commence à ICC, j'ai dit, je vais rester avec mon Dieu dans la maison. J'ai commencé à prier. La seule prière que je faisais, je disais tout juste que j'arrête tout maintenant au nom de Jésus. Que 2012, je ne rentre pas avec les pertes de sang. Je suis fatiguée, abattue. Je ne sais plus quoi faire, mais je sais que le Dieu que je sers, le Dieu que j'invoque, c'est un Dieu vivant qui a guéri la femme là pendant 12 ans. Moi, il n'y a que 4 ans, je sais qu'il va me guérir. C'est la seule prière que je faisais de 2008 jusqu'en 2011. Le 31 décembre, c'était à 4 heures du matin. Excusez-moi de vous le dire, la serviette que j'avais mise ce jour-là, quand j'avais commencé à prier, j'ai dormi avec ça. Avant, je pouvais changer au moins 5-6 fois dans la journée. Et je me promenais avec tout un paquet dans mon sac, parce qu'on ne sait jamais. Mais le 31 décembre, là, le Seigneur, j'ai dit, ma prière, ce n'était pas Seigneur, mais la femme. J'ai dit, Seigneur, j'arrête tout maintenant au nom de Jésus. Je ne veux pas être esclave de médicaments. Tu m'as créé, ce n'est pas pour que je sois extrait des médicaments. Et j'arrête tout. C'était la seule prière que je faisais. Le 31, le premier, je me réveille. Sincèrement, j'ai pleuré toute la journée du premier. Je n'avais pas mangé. J'ai dit, je suis guéri. Amen. Je vais dans la salle de bain, je me lave. Je dis, je reste sans serviette. Je veux voir si ça va passer. Et jusqu'à aujourd'hui, sincèrement, Amen. Le Seigneur m'a béni. Amen. Que Dieu vous bénisse, hein.
Je connaissais pas les détails, hein, je suis en live. Hein. On est en live, mais alors, comment vous dire? Moi, j'ai fait des études, d'accord? J'ai fait un bac S, je crois en maths, j'aime bien la physique, je suis un rationnel. J'ai passé les concours du CAPES à l'agrégation et je crois aussi au miracle. Je crois que c'est super les médecins. Et merci Seigneur, j'ai de la famille qui est médecin. Et j'ai demandé d'ailleurs, puisqu'elle est là aujourd'hui, si elle veut bien donner un témoignage aussi. Mais ça n'empêche pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à la médecine. Hein. Mais je dis que c'est top d'avoir Dieu en plus. Parce que là où les médecins ils font du super boulot, eh ben Dieu il peut faire encore différent. Et Laurent, si tu veux bien de nous donner juste un témoignage que tu avais vécu, qui m'avait marqué. Pourquoi je lui ai demandé? Parce qu'en préparant ma prédication, j'étais jeune quand j'ai entendu ce qu'elle m'a raconté et ça m'a fait du bien.
Donc je suis médecin et donc il y a très longtemps, j'étais étudiante en médecine. Et donc à l'époque, on faisait des stages dans des services. Et donc j'étais dans un service de cancérologie. Et donc on était tous réunis dans une salle où il y avait des dossiers médicaux. On était très nombreux, il y avait des étudiants en médecine, des gens plus âgés, des internes et des médecins du service. Et à un moment donné, un des professeurs de cancérologie arrive dans la salle et pose sur le négatoscope deux radios pulmonaires. Une où on voyait plein de métastases pulmonaires et puis une autre où on ne voyait plus rien. Alors nous, en médecine, c'est plutôt avant-après et avant, c'est toujours mieux qu'après, souvent. Et là, en fait, c'était incroyable. Au niveau des dates, il nous explique, je vous présente, c'est un cas de rémission spontanée. Alors bon, on regardait tous, et puis on regarde les dates. Alors avant, c'était plein de métastases, et après, plus de métastases. Et en fait, il nous raconte l'histoire d'une jeune fille, une étudiante, qui avait une tumeur maligne du genou, de l'os, un ostéosarcome, et qui donc avait des métastases pulmonaires, donc un stade très grave. Et donc, lui, interprété, il était complètement ébahi. Et donc, il nous faisait partager son étonnement. Et pour lui, c'était un cas de rémission spontanée, genre un truc qu'on ne comprend pas, mais qui doit quand même avoir une explication scientifique. Et en fait, quand il racontait l'histoire de cette jeune fille, je me suis dit, mais ça ressemble à la jeune fille pour qui on a prié dans l'église de Rennes, et dont la tante était chrétienne, et elle qui commençait, cette étudiante, à s'approcher du Seigneur tout en étant gravement malade. Et donc, je m'approche de la radio pulmonaire. Et effectivement, c'était son nom qui était inscrit. Et donc, j'ai pu dire, moi, je crois savoir pourquoi les radiopulmonaires sont ainsi. Alors, il y a eu un gros moment de gêne. Et finalement, il a remballé ses radios. Et puis, deux jours plus tard, le samedi matin, on n'était pas très nombreux, il vient me voir, le professeur de cancérologie. Il me dit, mais qu'est-ce que vous savez exactement? Ben, je lui dis, cette jeune femme, elle est venue dans l'église où je suis et on a prié pour elle. Il est reparti aussitôt. En tout cas, c'est pour vous dire que voilà, magnifique est le Seigneur. Et il fait des grandes choses dans nos vies. Et il y a un verset que j'aime beaucoup, que j'ai découvert récemment, une toute petite phrase dans un verset, c'est « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et souvent, « croyez que vous l'avez reçu », c'est quelque chose qui est important, parce que souvent, quand on prie, plus notre prière, plus notre demande se rapporte à un miracle, c'est-à-dire plus on pense que c'est impossible, plus on a peur, et plus on se dit « je prie, mais finalement, ça ne va peut-être pas marcher ». Mais là, le Seigneur nous invite vraiment à croire qu'on l'a reçu. Et vraiment, il nous invite à laisser nos peurs de côté, parce qu'on a souvent peur d'être déçus. Mais même la peur d'être déçu, il faut la laisser de côté. Et croire que ce qu'on a demandé, ça va s'accomplir. Et c'est comme ça que ça arrive. Amen.
Moi, je me rends compte que les pasteurs, ça ne sert pas à grand-chose, en fait. C'est que si jamais vous dites simplement les choses que Dieu a fait pour vous... Alors maintenant, je suis aussi rationnel. Il y a des fois où Dieu... J'ai eu des amis pour qui j'ai prié et que Dieu n'a pas guéri. Et ça arrive aussi, bien sûr, bien sûr. Parce que j'ai une mauvaise nouvelle à vous donner tous, mais un jour ou l'autre, vous allez mourir. Et Dieu, donc, à la fin de votre vie, ne va pas forcément vous guérir tout le temps. Mais par contre, j'ai quelque chose aussi à vous dire. C'est que votre corps va mourir, mais je crois qu'il est écrit quelque chose. Que Jésus a dit, il dit « Je vais vous préparer une place parce que là où je vais, vous irez aussi. » Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Alors, la mort, ça nous fait tous peur, la maladie, c'est l'horreur. Mais je crois qu'on voit aussi à l'échelle d'une vie, et je suis impatient et je suis pressé de te retrouver au ciel. Et là, on va rigoler de nos maladies, oh, pas tout de suite, hein. Enfin, on va attendre un peu, parce qu'on dira, waouh, mais en fait, dans mon lit d'hôpital, même quand je priais, etc., tu étais avec moi. Quand j'ai échoué à mon permis, lamentablement, la honte, j'avais prié, mes amis, j'avais prié. J'étais même en train de louer Dieu au moment où j'ai grillé le CD le passage. Et Dieu était quand même bon. Et j'ai eu un conflit avec lui après. J'ai dit, Dieu, pourquoi ? Je ne croyais pas que dans un moment d'adoration, on pouvait se faire piéger comme ça. Mais j'ai une voiture aujourd'hui. Et j'ai re-eu le permis. Je n'étais pas plus spirituel la deuxième fois. Ce n'était pas un meilleur moment ou un meilleur quand ou un meilleur comment. Je n'avais pas mieux prié ou rien, non. Il n'y avait pas un pasteur qui m'avait imposé les mains, Yvan, au nom de Jésus, tu as le permis maintenant. C'était tout seul. Il ne s'était rien passé de spécial. Et Dieu disait, aujourd'hui, tu as le permis. Ma vie, elle est dans les mains de Dieu. Cette femme, et c'est la fin de l'histoire, je conclue avec ça, elle se voit comme vide. Elle se voit comme n'ayant aucune chance. Et ma sœur confirme ce que j'avais lu, effectivement, sur Doctissimo, c'est qu'on est vidé, on n'a plus de force. Et elle a pris le peu d'énergie qu'elle avait, elle dit je toucherai Jésus. Mais ça demande une détermination incroyable. Alors je voudrais parler à ceux qui veulent vraiment voir Dieu. Je vous me lance un défi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, Dieu est prêt à agir pour toi. Je sais, au moment même où je dis ça, tu commences à dire oui mais. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les autres, je conclue là, les autres, regardez le regard des autres. C'est possible d'afficher les derniers versets, puis on va prier, mais verset 31. Ses disciples lui disent, parce que Jésus il dit, aussitôt, et le combien à 4h du matin ma sœur ? C'était 4h du matin qu'elle a dit, à 4h du matin, il y a quelque chose qui s'est passé. Une force est rentrée en elle. Et je crois que Dieu, c'est pour ça que je parle d'une transfusion de vie. C'est pas forcément des nouvelles cellules que Dieu te donne, mais c'est une transfusion de vie. C'est une transfusion de vie. Et à ce moment-là, le mal est arrêté et la vie reprend le dessus. Et cette femme-là, aussitôt, donc les disciples lui dirent, mais tu vois la foule qui te presse de tous les côtés et tu demandes qui m'a touché. Mais il continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Vous le voyez ça? Cette femme, on a vu, elle se voit vide. Son regard sur elle-même, c'est vide. Quel est le regard des autres sur cette femme ? À ce moment-là, quel est le regard des autres sur cette femme ? Comment ils la voient ? Comment ceux qui sont autour, les hommes, les femmes, tous ceux qui sont dans la foule, comment ils la voient ? Eh bien, ils la voient pas. Parce qu'ils n'en ont rien à faire. Parce que pour eux, elle est personne. elle est un numéro dans la foule. Et c'est pour ça que je vous dis que tant que vous croyez que vous n'êtes pas pour Dieu une priorité, vous resterez dans votre complexe, dans votre malheur. Mais cette femme-là, si elle se focalise sur le regard des autres, personne, comme disent les jeunes, ne la calcule. Personne, elle est rien. Elle est rien. Mais Jésus dit, je ne vais pas arrêter de chercher dans la foule. Je ne sais pas combien, là on est 200 dans cette salle. Mais Dieu commence à regarder, c'est qui. Et je me suis dit, mais ça veut dire que Dieu ne sait pas alors. On m'a arnaqué. Moi quand je suis allé dans les églises, on me disait que Dieu sait tout. Or là, s'il demande qui m'a touché, c'est qui ne sait pas. Non mais vous avez le droit d'avoir un cerveau, hein. Il a lavé vos péchés, il n'a pas lavé votre cerveau. Et vous regardez, qu'est-ce que Dieu, à Jésus, regarde. Je me dis, mais alors Dieu, tu sais pas, et ça m'a troublé. Jusqu'à ce que je vois le verset 32. Mais il continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Et ce verset me dit que Dieu avait déjà vu que c'était une femme. Pourtant, il y avait une chance sur deux. Hein. Et Dieu avait vu que c'était une femme. Et je dirais même comme c'était celle, c'est un... Ça pointe quelqu'un. Et Jésus savait. Vous savez, vous avez peur pour aujourd'hui, mais vous avez peur pour demain. Et vous dites, mais comment ça va se passer? Comment je vais finir mon mois en mars? Parce que ça, vu mes finances, comment elles sont parties. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer pour moi? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est déjà passé en mars 2013. Comment ça, il est déjà passé? Oui, parce que quand tu dis Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, eh bien, tu ne comprends pas. Mais ça veut dire qu'il est déjà passé en mars 2013, qu'il a déjà fait le printemps en 2013. Qu'il a fini et qu'avec les anges, ils t'ont regardé bronzer sur la plage, peut-être, quand tu as eu des vacances un jour en été. Même si c'est en 2016. Et Dieu sait exactement comment tu as fêté le réveillon 2018. Parce qu'il y était. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc moi, quand je m'inquiète, je dis, oh, Seigneur, demain, comment ça va se passer? Il dit, Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne... Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais mon pain de demain, je ne le connais pas, mais Dieu, lui, il est déjà cuit. Il a déjà tout cuit, il sait exactement tout ce qui se passe. Et je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Et cette femme, elle ne réalisait pas que Dieu savait tout d'elle. Et il lui dit, pourtant il sait tout, mais il lui dit, fais pas ça en cachette. Fais pas ça. Et je termine avec ça ce matin. Mais je vais te demander un effort. Je vais te demander un effort, parce qu'il dit à cette femme, qui m'a touché? Prends position ce matin. Jusqu'à ce que il a continué à scanner la foule jusqu'à ce que cette femme dise. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie, va en paix et sois guérie de ton mal. C'est génial parce que Dieu dit, oh, je veux être égal à égal avec toi. Je veux pas que tu te planques pour venir me toucher. Je veux pas que tu attendes d'avoir une super prière pour venir me parler. Je veux pas que tu ailles dans la meilleure église du monde pour ressentir l'onction. Je veux simplement que toi et moi, on puisse se parler face à face. Et tu es ma fille. Et le regard de Jésus pour elle, c'est un regard de fille. Il la considère comme sa fille. Et c'est pour ça tout ce que je dis ce matin. C'est une question de regard sur toi-même. Comment Dieu te voit? Dieu te voit comme sa fille. Dieu te voit comme son fils. Tu es nul en maths, mais Dieu, il t'aime. Tu as des problèmes dans ça, mais Dieu, tu as des problèmes avec tes voisins. Tu as même mal parlé à ton conjoint. Et tu dis, je suis indigne de la présence de Dieu. Dieu ne va pas répondre à ma prière parce que vu mon mauvais caractère, il ne pourra pas me guérir. Rien à voir. Dieu est ton père. Moi, si Ethan, il pleure un jour, même s'il a fait une grosse bêtise, à 2 ans et demi, s'il a fait la pire des bêtises et que je vois 2 petites larmes sur son visage et il dit « Papa, j'ai besoin de toi », ben je viens, point barre. Parce que c'est ma priorité. On va fermer les yeux ensemble. Dieu est pour toi un père. Tu es mon père, Seigneur. Tu es mon roi aussi, ça c'est formidable. Mon père est puissant, mon père est riche. Mon père a créé le corps. La Bible dit... À propos de cela, il dit, tu m'as fait ce que je suis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand je suis dans le secret, façonné, tissé au milieu des profondeurs de la terre. T'étais là à ma première écho, à l'écho de ma maman. Tu voyais tout. Lorsque j'étais qu'une masse informe, tu me voyais, et dans ton registre, dans ton livre, se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Je bénis Dieu, parce que même si je le connais si mal, lui me connaît parfaitement. Je voudrais demander ce matin à toi qui as envie de toucher Jésus ou toi qui as été touché un jour par Jésus, est-ce qu'on peut se lever ensemble ? Que ça soit ton désir ou que ça soit une réalité, on va se lever. On va prendre ce cœur qui dit « Tu es mon Père, tu es mon Roi », on va se laisser conduire, on va juste être simple. Oh, je sais que tu es irrationnel et que tu n'aimes pas t'exprimer. Tu n'aimes pas guetter deux petites larmes parce que tu perds le contrôle. Mais Dieu est un Père. Alléluia. Sont fermés, les têtes sont courbées. Je vous demande une chose. Je ne sais pas si vous êtes venus par hasard ce matin. J'ai du mal à croire au hasard. Moi, mais bon, c'est un problème. C'est que quand je sais que Dieu contrôle tout, j'ai du mal après. Je crois que si tu es là, c'est que Dieu voulait que tu sois là. Je ne sais pas ce que tu feras de ce message, que si Dieu t'a parlé ou bien si tu as encore des oreilles très très dures. Tu es très libre. Hein. Mais ta relation avec Dieu, elle est personnelle. La seule chose que Dieu essaye de regarder chez toi, est-ce qu'il y a la foi ? Est-ce que tu crois que Dieu existe ? Est-ce que tu crois que Dieu t'aime et que tu es sa priorité ? Est-ce que tu crois que Dieu peut agir même lorsque tu ne le mérites pas ? Et bien, si c'est ton cas, tu as une famille formidable. Tu as un Père au ciel. Et je suis heureux de pouvoir t'appeler mon frère, ma sœur. On est complètement égalité. Notre seul mérite, c'est qu'on a foi en Dieu. C'est le seul critère que Dieu a donné pour pouvoir recevoir un miracle. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le niveau d'études. Ce n'est pas la réussite familiale. C'est la foi. Comme ça, il n'y a pas de discrimination, tout le monde a autant de chance. Est-ce qu'il y a la foi en toi ce matin? Est-ce que tu peux te taire et écouter? Tu peux faire taire les bruits dans ta tête, on a trop de bruit dans notre tête. Je ne parle pas du bruit forcément audible, je ne parle pas des décibels, je parle de tous ces raisonnements que tu as dans ta tête. Si je me tais, alors j'entendrai la voix du bon berger, je crois. Si tu fais juste silence, si tu laisses Dieu te parler, comme ma sœur toute seule dans sa chambre un soir, alors tu entendras Dieu. Seigneur, tu es ni dans le bruit, ni dans le silence. Il n'y a pas de truc pour ta présence. Tu peux être dans une cathédrale comme tu peux être ici ce matin. Il n'y a pas de lieu pour ta présence. Tu es partout. Alléluia. Tu es dans les chambres quand on est seul. Tu es ici en cet instant. Tu es Dieu. Et merci de nous avoir donné accès à ta personne. Merci pour le fait que tu sois accessible à moi quand je te crie et quand je t'appelle. Merci pour les prières auxquelles tu as répondu ce matin. Je suis sûr que tu vas agir dans des situations où il y aura des témoignages sur ce qui s'est passé ce matin. Alléluia. Mets la foi dans ton peuple, Seigneur. Qu'on ait la foi, qu'on soit d'un arrière-plan catholique, qu'on soit d'un arrière-plan évangélique, d'un arrière-plan musulman, quelle que soit notre religion, on veut avoir une relation avec toi. Mets la foi dans nos cœurs, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. Pouvez vous asseoir. Moi, je suis chaud. J'ai envie de louer Dieu, mais il faut que je me calme là. Je vais laisser.